Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Guillaume Leplège. Deuxième volet de notre série sur les politiques climatiques des grandes puissances au cinquième anniversaire de l'accord de Paris. Après avoir évoqué hier le retour des États-Unis dans le jeu écologique à la faveur de l'élection de Joe Biden, avant d'aborder demain le projet de pacte vert européen et puis jeudi les ambitions ambiguës de la Russie en la matière, tournons-nous aujourd'hui vers la Chine, championne de la transition et du charbon.
L'accord de Paris sur le changement climatique trace la voie de la transition vers un développement vert et à faible émission de carbone. Il définit les mesures minimales à prendre pour protéger la Terre, notre patrie commune, et tous les pays doivent prendre des mesures décisives. La Chine augmentera les contributions qu'elle entend apporter à l'échelle nationale en apportant des politiques et des mesures plus ambitieuses. Nous avons comme objectif de commencer à faire baisser les émissions de CO2 avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060.
L'annonce du président chinois Xi Jinping promettant d'atteindre la neutralité carbone en 2060 à l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre a remis les enjeux climatiques au premier plan sur la scène internationale au terme de plusieurs mois consacrés presque exclusivement à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Comme la diplomatie sanitaire qu'elle a déployée dans ce cadre, la diplomatie climatique de la Chine, artisan clé de l'accord de Paris de 2015, constitue pour elle un vecteur essentiel de son soft power. Sur le plan intérieur, la politique environnementale de Pékin répond également à des enjeux de premier ordre, avec la crainte d'une herpocalypse, Morikongshi en chinois, dans les grandes villes, villes extrêmement polluées qui sont à la fois un risque sanitaire évidemment, mais aussi un risque de gronde sociale à l'égard des autorités. Raison pour laquelle ces autorités communistes ont investi massivement dans les énergies renouvelables au point d'acquérir le plus grand parc éolien au monde notamment. Mais la Chine, qui reste le premier pollueur de la planète, n'a pas pour autant renoncé à sa principale ressource d'énergie, le charbon. Des centrales continuant à sortir de terre pour assurer le train de la croissance et garantir l'indépendance énergétique du pays. Alors la politique environnementale de Pékin, essentiellement focalisée sur la dépollution des villes, peut-elle tenir lieu de politique climatique à part entière? Quelle est la proportion réelle des énergies renouvelables en Chine aujourd'hui et quelle est la marge d'expansion? Faut-il voir dans l'annonce de Xi Jinping fin septembre un espoir sérieux ou une simple stratégie pour acheter la paix diplomatique, un consensus sur le climat évitant d'aborder les droits de l'homme notamment? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Stéphanie Monjon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, enseignante, chercheuse à l'Université Paris-Dauphine. Vous aviez signé avec Sandra Poncet « La transition écologique en Chine, mirage ou virage vert ». Avec nous également Jean-François Dimiglio. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes président d'Asia Centre et puis enseignant à l'Université Paris-Dauphine également à Sciences Po. Vous aviez signé, vous, un ouvrage en anglais sur ce sujet, China's Energy Security. On en parlera évidemment. Stéphanie Monjon, on va commencer avec vous. Il y a quelques semaines, le président chinois a annoncé donc à la tribune des Nations Unies, on en entendait un extrait, que son pays visait la neutralité carbone en 2060. Comment interpréter ce message? C'est un message au monde pour dire que Pékin ambitionne de se placer comme chef de file de la diplomatie climatique mondiale? C'est un message à sa propre opinion pour lui signifier que le sujet est pris au sérieux. C'est une manière de sortir aussi peut-être d'un sujet qui a tout balayé pendant des mois, à savoir le Covid. Comment vous voyez les choses, Stéphanie Monjon?
C'est un message qui arrive à un moment où, au moment de la signature de l'accord de Paris, il avait été décidé qu'en 2020, on rendrait plus ambitieux nos engagements si cela était nécessaire. Donc, on est à une date un peu anniversaire où chaque pays devait revoir un peu sa copie si cela était nécessaire. Et bien sûr, c'est ô combien nécessaire. Donc, on attendait quelque chose de la Chine. Ne rien annoncer, ça voulait dire effectivement que la Chine ne s'inscrivait plus dans cette dynamique lancée par l'accord de Paris. Donc c'était vraiment un désaveu sur la scène internationale qui n'aurait pas été possible, il me semble.
Ça prouve, Jean-François Di Meglio, peut-être une certaine constance de la Chine sur ce sujet-là, parce qu'on pense parfois que l'engagement chinois dans les négociations internationales sur le climat, c'est quelque chose d'assez récent, qu'il s'est produit par le repli américain sur ce sujet, et notamment avec évidemment Trump, mais en réalité, ça fait très longtemps, Jean-François Di Meglio, que Pékin a conscience d'abord que c'est un enjeu de premier ordre et que les autorités s'impliquent dans les sommets. Et d'ailleurs, dès le sommet de Rio de 92, ça fait longtemps que Pékin est un acteur engagé de premier plan sur cette diplomatie climatique.
Oui, alors l'engagement diplomatique, comme vous le soulignez, est une chose. L'action sur le terrain, on sait bien qu'elle est quand même très très différente de ce qu'on peut observer, dans les engagements. Alors, dans le très long temps, vous incluez effectivement Rio. Il faut se souvenir aussi que dans le très long temps, il y a la dimension pays en développement de la Chine. C'est-à-dire que la Chine souligne le fait qu'elle sort du sous-développement. Et donc elle insiste beaucoup sur l'effort qu'elle fait, à la fois pour sortir du sous-développement et pour s'aligner sur des pays vertueux. Donc ça, c'est une dimension très très importante de la Chine. En revanche, en termes de résultats, ce très longtemps nous conduit quand même aujourd'hui à ce que 70% des énergies de la Chine sont des énergies fossiles. Donc il faut aussi remettre les choses en perspective, malgré les engagements et malgré la dimension « je m'engage » que Xi Jinping a effectivement souligné au moment du sommet de l'ONU.
On va évidemment y revenir sur l'action concrète, le bilan de tout cela, mais on va commencer quand même, Stéphanie Mongeon, sur l'enjeu diplomatique. Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, Stéphanie Mongeon, les États-Unis vont revenir dans l'accord de Paris, et donc Washington va redevenir un acteur incontournable dans cette arène climatique internationale qu'il avait largement délaissée. Compte tenu de ce retour de Washington, à quoi faut-il s'attendre s'agissant de ce duel entre Washington et Pékin pour prendre le leadership climatique? Est-ce qu'on va avoir une vraie bataille extrêmement féroce ou en réalité, c'est pas du tout un match à deux qu'on va avoir? Cet antagonisme particulièrement marquant entre les États-Unis et la Chine qu'on trouve notamment dans le domaine commercial, il sera pas aussi fort que cela dans le domaine de la diplomatie climatique, selon vous, Stéphanie Mongeon?
Je suis pas sûr de bien comprendre votre question parce que c'est pas forcément. Enfin, c'est.
Alors je vais la formuler autrement. Stéphanie Mongeon. Oui. Je vais la formuler autrement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la diplomatie climatique mondiale se perde dans l'antagonisme sino-américain qui est de plus en plus fort?
On parle de diplomatie et Monsieur Di Meglio a raison de souligner, il y a la diplomatie et il y a l'action et il y a l'ambition. Même si les États-Unis au moment d'Obama et la Chine ont soutenu l'accord de Paris, et c'est vraiment s'il n'y avait pas eu ce soutien de ces deux premiers émetteurs mondiaux, il n'y aurait pas eu d'accord de Paris. Ceci dit, sur le terrain, l'ambition de leur action est vraiment très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Alors on peut mettre ça sur en disant oui, mais il y a eu Trump. Même si avec Obama les réductions d'émissions avaient commencé, on était sur des actions qui étaient relativement simples. Voilà, on changeait du charbon, on mettait du gaz et ça infléchissait un peu. La Chine, si elle avait voulu démontrer de l'ambition, eh bien, elle n'aurait pas parlé d'une date dans 40 ans, 2060, pour viser une neutralité carbone, mais elle serait peut-être revenue sur le niveau du pic d'émissions qu'elle s'est engagée à passer avant 2030. Parce que, bien sûr, le niveau de ce pic va être très important. Jusqu'où leurs émissions vont augmenter. Et plus la quantité d'émissions sera importante, plus ces émissions vont rester pendant des siècles dans l'atmosphère, et plus le problème sera ardu. Donc, la diplomatie, bien sûr, il y a, on va dire, un accord de façade. Après, en termes d'action sur le terrain, il n'y a pas vraiment une très grande concurrence, il me semble.
On va venir à cette question de l'ambition pour la neutralité à l'horizon 2060, mais si on commence sur ce dernier point que vous avez évoqué, Jean-François Di Meglio, c'est-à-dire que vous avez évoqué, vous, Stéphanie Mongin, mais je pose la question à Jean-François Di Meglio, de ce pic d'émissions aux alentours de 2030. Est-ce que vous pensez que cela, la Chine, peut tenir cet engagement-là, Jean-François Di Meglio ?
Oui, alors ça peut paraître paradoxal, et effectivement, après avoir souligné les faiblesses des engagements de la Chine, ou en tout cas la schizophrénie qui parfois anime la Chine, je vais m'en faire un peu l'avocat. Elle a un modèle de développement qui, je dirais, a, d'une certaine façon, mangeait son pain noir d'une part, et d'autre part, on l'a évoqué, vous l'avez dit vous-même, Florian, au début, elle a une pression sociale qui est très forte. Donc ma réponse courte à votre question, est-ce que c'est possible ? Je dirais que oui. C'est possible parce qu'elle a construit l'essentiel de ses infrastructures. Les infrastructures, c'est ce qui consomme beaucoup de ciment, bien sûr. Le ciment, ça consomme beaucoup de charbon. Et puis, elle a fonctionné sur un système qui est le système productiviste typique des pays, je dirais, à économie planifiée. Elle est en train de faire sa transition. Elle a encore énormément de marge dans la montée en puissance de la consommation. Alors dans la consommation, il y a bien sûr la consommation automobile et les déplacements individuels. Ça va émettre du CO2 naturellement. Mais elle a mangé son pain noir et à ce titre-là, en plus de l'obligation sociale qu'elle a maintenant vis-à-vis de sa population, du fait des récriminations et du fait de ce grand événement qui a eu lieu il y a 5 ans, juste avant le congrès de l'Assemblée nationale chinoise, où ce film qui avait été viral sur les réseaux sociaux chinois, qui avait montré à quel point les ravages de la pollution étaient catastrophiques pour la santé publique, depuis cette date-là, le pouvoir a pris conscience de cette nécessité au niveau domestique, et bien sûr, répercute ça au niveau international.
Il y a peut-être aussi un autre élément qu'on pourrait ajouter, Jean-François Di Meglio, c'est que l'économie chinoise est en train de se transformer, que la place du secteur tertiaire est de plus en plus importante dans le produit intérieur brut, et que cette tertiarisation de l'économie, elle a pour effet de faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc en réalité, on a aussi structurellement là des évolutions qui font que ce pic à l'horizon 2030, pic d'émissions de CO2 à l'horizon 2030, n'est pas complètement farfelu, il est atteignable. La question qu'il y a aussi, Stéphanie Mongin, pour poursuivre un peu, c'est celle des émissions qu'on ne calcule pas forcément. C'est-à-dire que effectivement, l'économie chinoise se tertiarise, mais d'un autre côté, elle délocalise un certain nombre de choses dans des pays aux alentours, et notamment, par exemple, on peut penser au secteur textile, du côté du Bangladesh, du côté du Laos, etc., etc., et que ça a un coût en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et ce coût-là, alors, il disparaît dans le bilan chinois. Sauf qu'en réalité, il est toujours là, Stéphanie Mongin.
Oui, j'aimerais juste réagir à votre échange précédent. C'est que moi, je serais beaucoup moins optimiste que vous. La neutralité carbone, pour le moment, c'est un concept à un niveau mondial. Mais moi, je n'ai pas vu la démonstration que c'est atteignable.
On ne parlait pas de la neutralité carbone, Stéphanie Mongin, en l'occurrence. On parlait du pic d'émissions de CO2. La neutralité carbone, c'est autre chose, c'est pour 30 ans après.
Oui, mais c'est quand même bien la question qui se pose aujourd'hui en Europe et à la Chine et pour les autres puissances. C'est que passer un pic, c'est une chose, effectivement. Donc, on voit très bien, on peut s'attendre à une expansion du secteur tertiaire qui va permettre de passer ce pic, mais ce n'est que le début du chemin, et le chemin devient extrêmement compliqué après. Ni les États-Unis, les États-Unis ont franchi un peu l'Europe, on va dire, ni l'Europe n'a pas fait pour le moment la démonstration d'une décarbonation vraiment très forte. Ouais. Donc il y a des engagements qui sont pris, mais encore à démontrer.
Oui, là je vous suis totalement, Stéphanie Mongin, évidemment, parce que pour atteindre cette neutralité carbone, il va falloir que la Chine se détourne notamment de son charbon. Aujourd'hui, le charbon, c'est 57% de la production électrique du pays. Pour donner une idée, le pays consomme à peu près la moitié du charbon mondial. Et même la crise du Covid n'a pas eu pour effet de ralentir la production et la consommation. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Il y a deux questions. C'est pourquoi, Stéphanie Mongin, aujourd'hui, Pékin est aussi dépendant du charbon? Et comment en sortir?
Excusez-moi, j'entends d'autres personnes sur la ligne. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais...
Alors, je n'entends pas d'autres personnes. Alors, si, effectivement, j'entends d'autres personnes, vous avez raison. Jean-François Dimeglio, est-ce que vous m'entendez ?
On a beaucoup de monde, effectivement, sur la ligne, mais que ce soit bien précis, il y a deux débats dans la question. Il y a deux débats dans la question. Non, allô ? Allô ?
Alors, attendez, il semble qu'il y ait un embouteillage dans les lignes. On va essayer de régler les choses. Ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre un tout petit peu de musique, faire de l'ordre dans ces connexions, parce qu'il semble que tout est en train de se mélanger. C'est le direct, c'est la radio à distance, le direct. On va mettre un tout petit peu de musique et on met de l'ordre. Voilà, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. On avait un petit embouteillage sur les lignes. Il semble que les choses soient réglées. Jean-François Dimeglio et Stéphanie Mongeon, vous êtes nos deux invités ce matin. Nous parlons de la Chine. Est-ce que vous m'entendez correctement l'un et l'autre ?
C'est parfait. On a bien entendu le rock chinois aussi.
Eh ben voilà. Bon, ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Stéphanie Mongeon, vous êtes avec nous et vous m'entendez correctement également ?
Oui, très bien.
Formidable. Alors, je reprends ma question, Stéphanie Mongeon, sur la dépendance de la Chine au charbon chinois. Comment expliquer qu'aujourd'hui Pékin soit toujours aussi dépendant et comment sortir de cette dépendance, Stéphanie Mongeon ?
Alors, c'est une question extrêmement compliquée et une question qu'ils n'ont pas commencé à adresser, à mon sens, puisque pour répondre à la crise économique qui a été provoquée par la crise sanitaire, eh bien, il y a de nouveau une réponse avec des investissements dans des centrales thermiques charbon qui continuent. Donc ça avait été le cas déjà en 2008-2009 pour relancer l'activité suite à la crise économique, donc avec des investissements très très conséquents, notamment dans l'industrie lourde et dans le développement qui était déjà très important d'un parc thermique charbon. Et là, on continue à avoir des projets. Je disais récemment quelque chose, enfin un chiffre tout à fait étonnant. Il me semblait que leur parc thermique charbon était vraiment déjà très très important et en surcapacité déjà il y a 2 ans. Et pourtant, les investissements continuent dans ces... Et ça, quand vous avez des centrales qui sont très très jeunes, ben, vous n'allez pas les fermer. C'est des durées de vie de 30, 35 ans, on peut même pousser jusqu'à 40 ans. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, ils ont installé un parc qui sera encore là en 2050, très très conséquent sur le charbon. Et juste une précision, il faudrait un moment clarifier, il faut vraiment pas confondre gaz à effet de serre, donc qui provoque le problème climatique, et polluants atmosphériques qui provoquent les problèmes de pollution de l'air. On est sur deux problématiques différentes. Alors, il y a des fois des synergies, quand on améliore par exemple l'efficacité énergétique, mais quand on fait des techniques de dépollution, donc, eh bien, ça n'a rien à voir. Là, on est sur des techniques qui sont très différentes.
Mais alors, justement, Stéphanie Mongeon, pardon de vous couper, et ensuite je vous donne la parole, Jean-François Dimiglio, mais ce que disent les Chinois, c'est qu'ils ont fait énormément de progrès pour rendre ce charbon plus propre, je mets des guillemets, mais ils nous disent, il y a des nouvelles générations centrales dites super ou ultra super critiques qui sont censées rejeter moins de dioxyde de carbone, précisément. Quelle est la réalité de cet argument-là, et est-ce que, eh bien, remplacer précisément les vieilles centrales extrêmement polluantes par de nouvelles centrales permet globalement d'améliorer les choses?
Leur parc est assez jeune. Ouais. Alors, ils ont peut-être des vieilles installations, mais la plus grosse partie de leur parc a été développée ces 20 dernières années. Donc, on est quand même sur un parc relativement jeune. Alors, attention, encore une fois, ultra-critique, charbon propre, on est plus sur une captation des polluants atmosphériques, donc c'est-à-dire le SO2, les NOx, les métaux lourds. Et ça a été fait sur un tout petit nombre de centrales, mais absolument pas généralisé sur toutes les centrales. Ce qui fait que la situation en termes de pollution de l'air qu'ils connaissent aujourd'hui vient notamment du fait qu'ont été installées des centrales thermiques absolument pas propres parce que ils n'ont pas mis les technologies pour conserver ces polluants atmosphériques. Je n'ai pas parlé de CO2. Les CO2, c'est autre chose. On est sur une technologie qui n'est pas mature encore, la capture et la séquestration du CO2, et qui est très très chère. Ouais. Alors peut-être il y a effectivement quelques projets expérimentaux, mais on est sur l'expérimentation encore. On n'est pas sur de la standardisation industrielle.
Jean-François Dimiglio, sur cette question du charbon chinois, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on parlait hier des États-Unis et on expliquait que malgré l'ambition de Donald Trump de relancer le charbon américain, sa consommation avait en réalité baissé, tout simplement parce que ce charbon n'était plus rentable. Comment se fait-il que du côté de la Chine, ce charbon soit encore rentable et combien de temps va falloir encore attendre pour qu'il ne le soit plus et qu'enfin il décline?
Non, alors, écoutez, il y a beaucoup de choses dans le débat. J'aimerais revenir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués.
Je vous en prie.
Sur le charbon, hein, on est bien sûr. Bon, il y a un point de débat qui était en route avant qu'on ait effectivement l'interruption du rock chinois qui était très rafraîchissante. Bien sûr, c'est le débat entre pic et neutralité. Aujourd'hui, nous parlons du pic, 2030. La neutralité, on est tous d'accord, 2060, c'est un objectif extrêmement lointain et très difficile à atteindre. Je ne suis pas connu pour être un défenseur de toutes les initiatives chinoises, mais j'insiste sur le fait que la Chine a une capacité de nous surprendre qui va au-delà de notre imagination. Et donc, pour plusieurs raisons, les efforts qu'elle fait aujourd'hui, qui sont parfois des efforts vertueux, mais qui sont aussi des efforts moins vertueux, comme les délocalisations et peut-être ce dont on parlera, la géo-ingénierie, sont des choses qui vont nous surprendre dans sa capacité peut-être à se rapprocher de cet objectif de 2030. J'arrive sur le charbon. Effectivement, les centrales sont jeunes. Ces centrales qui sont jeunes sont effectivement, comme vous l'avez dit Florian, des centrales qui ont une efficacité énergétique, et c'est là en fait que les gains chinois se situent, c'est dans l'efficacité énergétique qui ces centrales récentes ont une efficacité énergétique qui sont bien meilleures que les centrales anciennes. Mais en plus, il y a, en plus de la construction centrale, il y a l'amélioration. La Chine travaille énormément pour ajouter, quand vous allez dans une centrale thermique chinoise qui fonctionne au charbon, vous allez voir des tuyaux supplémentaires qui ont été rajoutés parce que ce sont des filtres qui vont permettre d'émettre un petit peu moins ou d'améliorer l'efficacité énergétique ou d'abaisser les émissions. Troisième chose, vous avez parlé des États-Unis. L'un des problèmes de la Chine, puisque votre question c'était la rentabilité du charbon chinois, la rentabilité du charbon chinois, c'est pas un sujet puisqu'on n'est pas dans une économie de marché. Et donc c'est bien le problème de la Chine depuis le début, c'est qu'elle fonctionne avec une énergie qui d'une certaine façon ne coûte rien, parce que, si vous me permettez, rien ne coûte rien en Chine. On n'est pas dans une économie de marché, et même malgré les efforts de la Chine pour se rapprocher d'une économie de marché, l'énergie n'est pas au prix où elle devrait être. Elle est systématiquement subventionnée.
Mais sauf quand elle l'achète à un tiers, c'est-à-dire quand elle en produit, soit, et là je vous rejoins, mais quand elle l'achète par exemple à l'Australie, elle l'achète au prix du marché.
Absolument. Le charbon chinois est un charbon de mauvaise qualité Et la Chine importe de plus en plus. Elle est autosuffisante en charbon, mais il se trouve qu'elle importe du charbon de plus en plus, y compris des États-Unis, de façon à avoir du charbon qui soit de plus en plus utilisable en polluant moins. Et donc, effectivement, ça augmente le prix de cette énergie, comme vous le soulignez très bien, et c'est bien pour ça qu'elle a un intérêt économique à baisser ses émissions et à se rapprocher de l'efficacité énergétique. Dernier point que je voulais faire à propos de ce 2030, ce pic, il se situe en fait pour la Chine à un niveau plus bas que celui des États-Unis ou d'autres pays développés qui sont à 18 ou 20 tonnes de CO2, et je ne parle que de CO2 encore une fois par habitant, puisque la Chine, avec son modèle de développement et avec ce pain noir qu'elle a déjà consommé, souhaite se situer à un pic qui se situe probablement aux alentours de 7 tonnes. Donc c'est beaucoup plus facile à atteindre 7 tonnes que 18 ou 20 tonnes comme pic.
Stéphanie Mongeon, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans le paysage énergétique chinois, c'est la montée en puissance du gaz. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Stéphanie Mongeon, la place que ce gaz naturel tient dans le paysage, la stratégie énergétique chinoise en la matière, et est-ce qu'il faut comprendre qu'il va devenir ce gaz naturel, la pierre angulaire du mix énergétique chinois dans les années à venir, et qu'il va justement permettre de sortir progressivement, en tout cas ça serait le but, de ce charbon, Stéphanie Mongeon?
Donc pendant longtemps, il n'y a pas eu. Enfin, la Chine a des ressources importantes en charbon, cela a été dit, mais pas beaucoup en gaz ni en pétrole. Donc sur son territoire, le choix du charbon a été fait effectivement dans un objectif de garder une grande indépendance énergétique. Le gaz s'est récemment développé parce que pour répondre en partie aux problématiques de pollution de l'air. Encore une fois, à chaque fois qu'on dit le terme émission, il faut bien préciser de quelle émission. Est-ce qu'on est sur des émissions de NOx, de SO2 ou de CO2? On est sur des réponses technologiques, on va dire, très différentes. Donc à chaque fois, bien préciser. Les tuyaux, actuellement, c'est le traitement des fumées. On est sur des polluants atmosphériques, c'est pas pour le CO2.
Pardon, mais enfin, il y a quand même un point commun dans tout ça, c'est que ça pollue et que c'est pas bon pour la nature, Stéphanie Mongeon. Pardon de faire un raccourci un peu vulgaire, mais on est quand même là-dedans. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est toujours celui-là, quoi.
Alors, là, on parle du vivant, on parle pas de la planète, parce que la planète va très bien se porter, hein, avec ou sans nous. Donc, on est sur le vivant. Le CO2 n'est pas un polluant, c'est-à-dire émettre un peu plus de CO2, ça va pas induire ça n'aura pas d'impact sanitaire. Donc, il va y avoir une dérégulation, enfin, un dérèglement du système climatique qui a des répercussions. Mais vous ne tombez pas malade. Le nombre de morts prématurées actuellement en Chine qui est très très impressionnant. Les derniers chiffres que j'avais en tête, que j'avais lu, c'était 6000 morts par jour liées à la pollution de l'air. Et je pense que depuis, ces chiffres ont été augmentés. Le nombre de morts prématurées, là, on est sur une problématique de pollution de l'air. Voyez. Donc, les changements climatiques, on en connaît aujourd'hui et de plus en plus, mais le pire est à venir. Ça va être dans 10 ans, dans 20 ans et bien au-delà si on n'arrive vraiment pas à infléchir de façon très conséquente. Donc on est quand même sur des... Donc la pollution, pour revenir, le gaz effectivement est moins polluant que le charbon. Et vous avez tout à fait raison, à la fois pour les polluants atmosphériques et à la fois pour le CO2. Donc enlever du charbon, mettre du gaz à la place, c'est très bien pour les deux sujets. Donc ça, il n'y a pas de problème.
Bon, donc c'est la raison pour laquelle les autorités chinoises misent dessus. Jusqu'où est-ce qu'elles ont raison de le faire? Jusqu'où est-ce que ça peut permettre de régler le problème?
Ben, misent dessus, effectivement, parce qu'ils ont eu vraiment des problèmes de qualité de l'air très importantes. Et là, il y a eu une pression sociale forte. Donc là, ça les a motivés. Parce que jusqu'à présent, ils laissaient le gaz un peu en source d'énergie un peu marginale, vraiment. Donc là, ils ont fait un effort. Ils font aussi des efforts dans l'exploitation sur leur territoire et on revient toujours à cette volonté de garder une grande indépendance sur les gaz de schiste. Ça, les gaz de schiste, le bilan en termes d'émissions de CO2 n'est absolument pas... Enfin, c'est pas très intéressant, hein, parce qu'au moment de l'extraction, au moment on va émettre et il y a des fuites importantes. Enfin, donc, s'ils reviennent sur une logique territoire... Pour avoir du gaz, ça va poser un problème et on revient au fait qu'ils ont un parc. Une centrale thermique charbon n'est pas une centrale thermique gaz. Ce n'est pas le même équipement. Donc, tous les investissements qui ont été faits dans leur parc thermique charbon ces 20 dernières années, ils ne vont pas, enfin, on ne peut pas imaginer qu'ils ferment de façon une très grande partie de leur parc pour dire, bah, très bien, au bout de 10 ans, j'arrête tout, donc je perds mon investissement. On appelle ça des coûts échoués pour reconstruire à côté une centrale thermique gaz. Donc, ils ont quelques marges de manœuvre, mais pas énormément. Ouais.
Alors justement, si on continue de regarder un peu les marges de manœuvre et on va avancer un petit peu, Jean-François Di Meglio, il y a peut-être un autre domaine qu'il faudrait regarder, c'est la question du nucléaire. La Chine dispose aujourd'hui d'une quarantaine, Jean-François Di Meglio, de réacteurs nucléaires en activité. C'est à peu près 4% de la production électrique chinoise qui est d'origine nucléaire. Alors je sais bien, Jean-François Di Meglio, qu'on a aujourd'hui une vingtaine de réacteurs qui sont en construction et donc ça place le pays au premier rang en nombre de réacteurs en construction. Mais on pourrait se demander pourquoi la Chine a aussi peu misé sur l'atome jusqu'ici, Jean-François Di Meglio.
D'abord parce que c'était une technologie non seulement complexe, mais que c'était surtout une technologie étrangère. La Chine a marché sur les trois jambes, si j'ose dire. La technologie française, hein, les Français ont été pionniers d'une certaine façon pour exporter de la technologie nucléaire en Chine. Parmi les très très grands contrats français, il y a bien sûr des centrales nucléaires. Et il faut rappeler que le seul EPR qui fonctionne dans le monde, c'est l'EPR français qui se trouve en Chine.
Ouais.
Il marche, ils l'ont construit, il marche. Je ne commenterai pas sur les normes de sécurité qui sont appliquées en Chine, mais en tout cas, il marche. Technologie française, technologie soviétique ou russe, selon la façon dont on l'appelle. C'est une technologie d'origine soviétique, mais bien sûr, ça rappelle de mauvais souvenirs. Et technologie américaine, puisque Westinghouse, du temps où Westinghouse était américain, a aussi candidaté et était actif en Chine. Aujourd'hui, la Chine développe sa propre technologie indigène, mais elle a mis beaucoup de temps. Elle l'exporte d'ailleurs, cette technologie, hein, elle l'a exportée aussi au Pakistan, et donc c'est la raison pour laquelle le nucléaire est en retard. C'est parce que, comme ça a été dit plusieurs fois, c'est d'abord la souveraineté qui privilégie les choix chinois, et que, bien sûr, le nucléaire, c'était ce qu'il y avait de moins souverain, encore moins souverain que le gaz.
Et est-ce qu'on pourrait attendre, Jean-François Di Meglio, un bond technologique? Parce que il se trouve qu'il y a quelques jours, la Chine a activé un réacteur expérimental dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest, un réacteur non pas à fission, mais à fusion nucléaire. Est-ce que, après avoir été très en retard, comme vous le disiez, la Chine pourrait rattraper et devenir très en avance sur le reste du monde sur ce sujet?
Écoutez, sans être victime des effets de communication que la Chine produit parfois, je dirais que oui. Je dirais que les sauts technologiques et, bien sûr, ce qu'on appelle le leapfrogging, c'est-à-dire les sauts par bond et par progression qui enjambent les étapes intermédiaires, c'est le propre de l'innovation chinoise. Donc, ma réponse courte, encore une fois, à votre question, ce serait oui.
Allez, on va parler des énergies renouvelables.
Le gouvernement nous achète le kilowattheure à 3 fois le prix normal. Et on nous a garanti que cette politique de subvention sera maintenue pendant 20 ans.
Ici, c'est parfait pour le solaire. C'est une région pauvre avec des terres arides. Il y a beaucoup d'espace disponible et un très bon ensoleillement. Dans les mois à venir, nous allons agrandir ce parc. Comme ça, nous allons pouvoir suivre la stratégie nationale de développement des énergies propres qui a été insufflée par le gouvernement.
Voilà, extrait de reportage de France 2 et France 24. La Chine qui est au premier rang dans le solaire photovoltaïque, à peu près 32% du total mondial. Production d'électricité à partir de biomasse, on est très très bien aussi niveau mondial. Pareil évidemment pour l'éolien, où on a 30% à peu près de la production mondiale. Stéphanie Mongeon, la recette de ce succès chinois en matière d'énergie renouvelable, là aussi j'imagine qu'il va falloir regarder un peu les choses dans le détail, est-ce que c'est précisément le succès qu'on dit et jusqu'où est-ce qu'on peut encore développer tout cela pour justement atteindre, peut-être, puisque c'est le but de Xi Jinping, il l'a annoncé en septembre dernier, atteindre cette fameuse neutralité carbone à l'horizon 2060. Stéphanie Mongeon.
On l'aura compris hein, depuis le début de l'émission, mais je vais le répéter, c'est bon, la Chine est un géant, et c'est un géant aussi énergétique. Donc quand on parle de capacité, donc de mégawatts, donc de nombre de centrales ou de panneaux ou d'éoliennes installées, Les chiffres en valeur absolue sont toujours vertigineux. Après, il faut voir dans quelle mesure ça contribue. Ça répond à la demande énergétique énorme de ce pays. Quoi. Mmh. C'est quand même le premier. Enfin, on est toujours face à des chiffres qui donnent le tournis. Hein. Donc, faut toujours voir ça. Je regardais.
Et ce que vous dites, c'est que proportionnellement, c'est pas aussi important qu'on voudrait le dire.
Si on regarde les statistiques, on est quand même sur une contribution des énergies renouvelables qui est encore extrêmement faible. Mais ça, c'est le cas un peu partout. Mais en Chine, bon, on est sur du. Si on prend le mix énergétique, hein, pas électrique, mais la part, c'est bon, on est sur 2,5% de la part, par exemple,
ah oui, c'est très peu.
Bien, et 1,2 du solaire. Alors, il faudrait regarder le mix électrique, hein, ouais. Parce que ces technologies, c'est pour l'électricité. Mais en mix énergétique, on reste quand même, voilà, sur quelque chose qui est de cet ordre, alors que le charbon, c'est 58%.
Et alors, pourquoi c'est aussi peu? Parce que pourtant, Pékin avait fait d'énormes investissements, et très tôt, dès les années 2000, ça a été vraiment le cœur de sa stratégie énergétique.
Si vous comparez en termes de puissance installée, hein, eh bien, on est sur des puissances qui sont bien inférieures. C'est compliqué, les énergies renouvelables, parce qu'elles sont intermittentes. Donc, intermittentes, c'est-à-dire bah, quand il y a du vent, on en a, et sinon, il n'y en a pas. Alors, comment on gère cette intermittence? Alors, bon, on n'a pas le temps de l'expliquer, mais c'est très compliqué, tout ça. Et après, ce sont des énergies qui demande beaucoup de matériaux et de place. Vous voyez, on n'est plus dans une source d'énergie concentrée, centralisée. Alors, on parle du nucléaire, on est sur des quantités énormes. 1600 mégawatts, c'est énorme. Quand on parle d'éolien, on est sur une grande éolienne géante qui est plus grande qu'un avion. On est sur 10 mégawatts. Des panneaux photovoltaïques, bon, vous prenez un panneau, on va être sur des toutes petites quantités. Donc, ça nécessite à la fois des très grandes surfaces et à la fois des matériaux en très grande quantité. Donc, la question qui émerge actuellement pour le monde entier, parce que là, on n'est pas que sur une problématique Chine, c'est est-ce qu'on a suffisamment de ressources métalliques? On parle de terres rares souvent. Alors, la Chine s'est fait un peu la championne des terres rares, mais à quel prix? À quel prix? C'est extrêmement toxique d'extraire, de raffiner. Donc, il y a des villages de cancer qui se développent autour des mines. Et sachant que actuellement, si on veut aller vraiment vers une augmentation très très forte des capacités renouvelables dans le monde, en Chine et dans le monde, il va falloir augmenter considérablement la quantité des différents métaux, minerais, terres rares dont on a besoin pour que ces technologies, pour que ces équipements fonctionnent.
Alors si on se reconcentre, Stéphanie Mongeon, sur le contexte purement chinois, Jean-François Di Meglio, il y a une question qui se pose, qui me semble être importante, parce que on a vu ces dernières années un certain nombre de mobilisations autour de sujets environnementaux, ce qui n'est quand même pas rien. On sait en Chine la difficulté qu'il y a évidemment à contester le pouvoir en place. Donc, quand il y en a dans le domaine environnemental, il faut le souligner. Il y a même eu des contestations, par exemple, pour annuler des projets de centrales au charbon et qui ont obtenu gain de cause. Donc, il faut le mentionner. Et en même temps, il faut dire aussi qu'on a eu des contestations sur des sujets écologiques qui ont posé problème. On pense, par exemple, évidemment, au fameux scandale du lait frelaté à la fin des années 2000, où là, on avait eu une couverture médiatique qui était totalement sous la coupe du pouvoir, tant ça posait problème. La question, elle est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir en Chine l'émergence d'un grand mouvement écologiste qui remettrait en cause la manière dont les autorités gèrent cette question-là. Et puis l'autre, c'est quelle est la limite entre ce que l'on peut remettre en cause et ce que l'on ne peut plus remettre en cause? Qu'est-ce qui est acceptable du point de vue des autorités? Jean-François Di Meglio.
Alors ne vous inquiétez pas, je vais répondre à votre question, comme tout à l'heure, je la garde en tête, mais je voudrais me rembobiner un tout petit peu et revenir.
Alors vous avez exactement 2 minutes pour le faire, hein, parce qu'après on a un intervenant qui arrive juste derrière. Alors,
la question des renouvelables, il faut la situer dans l'augmentation d'un besoin énergétique en Chine. Donc oui, vous construisez beaucoup de renouvelables, mais comme les besoins énergétiques augmentent, et que le renouvelable, comme ça a été dit, c'est une énergie alternative, forcément vous ne voyez pas cette augmentation de la part des renouvelables. Sur la question des mouvements sociaux, c'est la hantise principale du pouvoir chinois. Le pouvoir chinois doit à la fois nourrir sa population, et quand il cesse de la nourrir ou quand il ne l'enrichit plus il est en danger. Et quand effectivement il met en danger quelque chose qui est fondamental dans la culture chinoise, c'est-à-dire la santé, la première chose que vous dites à un Chinois quand vous le voyez, c'est « Est-ce que tu as mangé ?» Donc ça, c'est important. Et bien sûr, l'autre chose que l'on dit aussi bien en Chine que chez nous, c'est « Comment ça va ?» La santé, c'est fondamental. Et donc, effectivement, si Tsai Ting, cette journaliste qui a fait ce film sur la pollution en Chine, a eu tant d'impact, c'est parce qu'effectivement, il y a une fragilité du pouvoir chinois vis-à-vis de ses équilibres écologiques et vis-à-vis de ce que le pouvoir peut faire pour dégrader ou améliorer l'environnement. Donc je pense qu'effectivement, encore une fois, la Chine a une capacité de nous surprendre. Je ne reviens pas sur cette question de neutralité, on a tous compris que c'était un objectif illusoire aujourd'hui, mais en revanche, je reviens sur cette capacité de surprendre, il faut être très vigilant, et ça n'est pas pour faire l'éloge de la Chine que je dis, c'est pour nous inciter à la vigilance.
On est avec vous, Jean-François Dimiglio, et vous, Stéphanie Mongeon, dans cette semaine consacrée à la défense du climat. On parle aujourd'hui de la Chine, championne de la transition et du charbon. On va s'intéresser à Séoul et à Tokyo.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Les mesures de lutte contre le réchauffement climatique ne sont plus pour le Japon des obstacles à la croissance économique et devraient conduire à des réformes industrielles et socio-économiques et à une croissance importante. Nous devons changer de mentalité. Nous nous rapprocherons de l'objectif pour la Corée du Sud de devenir pays neutre en carbone d'ici 2050 face au changement climatique, en accord avec la communauté internationale. Nous remplacerons l'énergie du charbon par des énergies renouvelables et créerons un nouveau marché, une nouvelle industrie et de nouveaux emplois.
Voilà, on entendait à l'instant le Premier ministre nippon et le président sud-coréen à peine plus d'un mois après que la Chine s'était engagée à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2060. C'est presque simultanément, à deux jours d'intervalle, que les dirigeants coréens et japonais ont annoncé fin octobre répliquer et même surpasser ces objectifs. On vise du côté de Tokyo et Séoul la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors, dans quelle mesure ces annonces ont-elles été inspirées par la Chine? Et au-delà des discours, quelle inflexion politique réelle peut-on attendre de la part de ces deux pays de la région? On va retrouver Philippe Mesmer, qui est correspondant du Monde à Tokyo. Philippe Mesmer, Séoul et Tokyo ont fait donc leur annonce quelques jours après celle venue de Pékin. C'est une pure coïncidence de calendrier ou il y a une volonté très claire de s'aligner sur la Chine?
Alors en fait, il n'y a pas du tout de hasard, évidemment. Je pense pas qu'en revanche, qu'il y ait une volonté de s'aligner sur la Chine. Je pense qu'il y a une volonté de s'aligner sur le monde en général, notamment du côté des grandes puissances, puisque l'Europe est un peu leader dans ses engagements. Les États-Unis vont changer de président et Joe Biden a déjà annoncé qu'il réintégrerait les États-Unis dans l'accord de Paris sur le changement climatique. Donc le Japon et la Corée du Sud, qui jusque-là louvoyaient un petit peu pour éviter de prendre des engagements extrêmement forts sur ces questions-là, risquent de se retrouver un petit peu isolés. Donc, à partir du moment où l'Europe se lance, les États-Unis vont faire des efforts plus importants, la Chine aussi.
Les annonces de Tokyo et Séoul, c'est avant l'élection américaine, donc on ne savait pas encore si Biden allait l'emporter, hein.
Non, bien sûr, mais je pense que dans leur esprit, il y avait quand même une grande chance qu'ils l'emportent.
Est-ce que c'est une rupture durable? Parce que effectivement, quand on regarde les choses, on voit que le Japon et la Corée sont pas forcément des bons élèves. En tout cas, n'ont pas toujours été très ambitieux en matière de diminution des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde par exemple la COP21, on s'était engagé à une baisse de 16% pour 2030. Avec toujours comme référence 1990, vous parliez de l'Europe. L'Europe, c'est 40%. Donc, on voyait bien un manque de volonté à l'époque. Est-ce que là, ça y est, on a compris et on s'engage de façon réelle, durable dans cette bataille pour le climat?
Je l'espère. Beaucoup critiquent le Japon et la Corée pour ne pas avoir fixé d'objectifs à l'horizon 2030, qui normalement est une bonne étape pour voir si on est sur la bonne voie pour parvenir à la neutralité carbone. Quand même, on peut voir néanmoins que Séoul et Tokyo ont annoncé, enfin les gouvernements ont annoncé des grosses enveloppes pour financer des projets qui s'inscrivent dans la transition énergétique. Donc on peut penser qu'il y a une volonté quand même de faire quelque chose de concret, ce qui n'était pas vraiment le cas jusque-là.
Alors on va voir justement ce qui est fait pour notamment développer les énergies renouvelables. Mais d'abord, est-ce que cette ambition de neutralité carbone est atteignable? Et surtout, est-ce qu'elle est atteignable sans miser sur le nucléaire? On rappelle que du côté du Japon, On est quand même dans une situation où la triple catastrophe de Fukushima a fait qu'on a fermé quasiment l'intégralité du parc nucléaire. C'était avant Fukushima, c'était 25% de la production électrique. Là, on en a seulement une centrale nucléaire qui est ouverte et on peine à les rouvrir. Est-ce qu'on peut atteindre cet objectif, s'agissant du Japon, sans relancer le nucléaire ?
C'est une bonne question. A priori, le gouvernement pense qu'il ne peut pas atteindre l'objectif de neutralité carbone sans le nucléaire. Les organisations qui sont anti-nucléaires et qui rappellent la gravité de la catastrophe nucléaire de Fukushima, qui, je le rappelle, prendra des décennies à être résolue, c'est loin d'être le cas encore, soulignent la dangerosité de cette énergie et des risques qu'elle représente, pensent qu'il faut faire un effort pour essayer d'y arriver. Il y a un sous-investissement à plein de niveaux au Japon sur les énergies renouvelables, sur les isolations de bâtiments. C'est un vrai désastre, puisqu'ici on en est encore, on est très loin de même envisager le double vitrage pour les bâtiments. Donc c'est des passoires énergétiques, comme on appelle ça. C'est une vraie catastrophe pour les bâtiments. Donc il y a beaucoup d'investissements qui pourraient être faits, qui pourraient d'une part réduire la consommation énergétique et d'autre part augmenter la part des renouvelables. Dire qu'on pourrait sortir, arriver à se passer totalement du nucléaire, c'est encore difficile à dire, mais en tous les cas, on pourrait grandement s'en passer.
Vous disiez, Philippe Messmer, dans un récent article, enfin vous interrogiez plutôt un économiste qui s'appelle Shuzen Asuka, qui est professeur à l'université de Tohoku, et lui vous disait qu'au fond, les choix pour le bouquet énergétique au Japon sont faits, je le cite, par des avocats du nucléaire et des représentants des intérêts de l'industrie des énergies fossiles. Est-ce qu'il faut comprendre que au Japon, en tout cas, les choix énergétiques sont avant tout des choix industriels et moins peut-être des choix politiques et peut-être encore moins des choix scientifiques?
Oui, parce que le Japon et d'ailleurs comme la Corée sont très concentrés sur l'économie. Il ne faut pas que les décisions prises nuisent à l'économie. Après, dans le gouvernement japonais, il faut comprendre le poids de chaque ministère. Et le ministère de l'économie et de l'industrie est très important. Et ce ministère a la charge, bien sûr, de la politique énergétique. Et il est très proche des milieux d'affaires, notamment l'organisation patronale de Keinan-nen, qui elle-même est très influencée par les grandes compagnies d'électricité, qui sont très attachés au nucléaire, mais aussi par les grandes sociétés de la construction, de la sidérurgie, qui ont un poids très important dans les décisions prises. Donc, quand le gouvernement japonais prend une décision, il le fait en concertation avec ces milieux, qui sont quand même plutôt réticents à s'engager fortement, durablement, vers une transition énergétique radicale.
Si on regarde la Corée du Sud, Philippe Messmer, qui n'a pas vécu évidemment Fukushima, et pourtant la part du nucléaire dans le mix énergétique sud-coréen est relativement faible, 25% de la production électrique. Et l'essentiel repose sur des usines à charbon. Quand on regarde la consommation de charbon en Corée du Sud, elle a globalement augmenté sur ces 10 dernières années de 20% depuis 2009. Pourquoi cette dépendance de la Corée du Sud au charbon? Est-ce qu'il y a des efforts pour en sortir? Parce qu'on se dit qu'à ce rythme-là, il va être extrêmement compliqué pour Séoul d'atteindre en 2050 la neutralité si on continue à mettre en place des usines au charbon. Ça paraît impossible.
La dépendance au charbon tient au fait principalement que le charbon, c'est pas cher.
Mais ça pollue.
Mais ça pollue. Mais bon, jusqu'à présent, la question prioritaire, c'était celle du coût. Historiquement, pour soutenir sa croissance économique, son développement économique et sa croissance économique, qui ont été très rapides en Corée du Sud, le gouvernement a un petit peu sponsorisé la production d'énergie pour qu'elle soit la moins chère possible pour les usines, pour les entreprises. KEPCO, la compagnie d'électricité de Corée, qui a le monopole de la production d'électricité, vendait quasiment à perte de l'électricité aux entreprises, ce qui permettait de fabriquer des voitures Hyundai, des ordinateurs Samsung à des coûts défiant toute concurrence. Et donc pour cela, quand même, ils ont beaucoup utilisé le charbon. Et aujourd'hui, on en paye le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le charbon est à l'origine d'une pollution régulière et massive, surtout l'hiver, parce que c'est là qu'on consomme le plus d'électricité. Et le gouvernement de Moon Jae-in, du président Moon Jae-in, commence à vouloir en sortir. Il a déjà annoncé la fermeture de centrales, mais bon, c'est un processus qui s'annonce long et un peu difficile.
Mais j'imagine qu'il prévoit justement des dispositifs de compensation, parce que fermer des centrales, c'est très bien, mais vous parliez tout à l'heure des énergies renouvelables. Est-ce que, par exemple, du côté sud-coréen, on a mis en place pour développer les énergies renouvelables et se passer enfin un petit peu du charbon?
Non, on n'y est pas. On va plutôt passer par une étape intermédiaire qui sera plutôt le gaz. C'est ouais. D'ailleurs le cas aussi au Japon, où le gaz, c'est considéré un petit peu comme une alternative moins polluante et puis moins coûteuse aussi, et puis plus facile à mettre en œuvre. Ce qui explique un petit peu tous les projets que mène le Japon dans l'extrême-orient russe pour l'exploitation du gaz, notamment... sur l'île de Sakhalin. Donc le gaz, pour l'instant, c'est quelque chose qui est important dans les projets à venir.
Oui, d'ailleurs, dans son Green New Deal, parce qu'en Corée du Sud aussi, on a un Green New Deal, Moon oui. Jae-in a confirmé le remplacement effectivement de la moitié des centrales au charbon d'ici 2034 pour les remplacer par des centrales au gaz. Mais encore un tout dernier point, Philippe Messmer, parce que la Corée du Sud et le Japon ont été, comme tout le monde, j'allais dire, comme toutes les économies du monde, touchées par une crise sanitaire sans précédent. Et donc, on a mis en place des grands plans de relance pour rebooster l'économie. Est-ce qu'on n'a pas profité justement de tout cela, de cet argent public qui va être mis sur la table ces prochains mois, ces prochaines années, pour développer ce qui reste quand même le mieux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en tout cas le moins polluant, c'est les énergies renouvelables. Vous disiez que c'est assez peu développé aujourd'hui en Corée du Sud et au Japon. Est-ce qu'on profite justement de cette crise pour enfin miser sur cette énergie-là, cette énergie renouvelable?
Alors pour l'instant, c'est pas très clair, ni du côté coréen, ni du côté japonais, sur la production d'énergie. Il y a effectivement des grands plans, vous avez parlé du Green New Deal, au Japon aussi, le Premier ministre Suga a annoncé il y a vendredi dernier des milliards pour la transition énergétique, enfin en tous les cas pour tout ce qui est secteur présumé peu polluant, notamment les transports, les voitures électriques et tout ça, et le soutien à la production d'hydrogène d'origine renouvelable, mais des objectifs chiffrés n'existent pas. L'année prochaine, au mois de juin, le Japon va annoncer son plan quinquennal de bouquet énergétique. Donc là, on verra leurs vrais engagements. Et c'est pareil en Corée. Il va falloir attendre un petit peu pour savoir exactement ce sur quoi on s'oriente.
Merci beaucoup, Philippe Messmer, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le correspondant du Monde à Tokyo, mais que vous couvrez aussi la péninsule coréenne. On peut retrouver l'ensemble de vos articles sur le site du Monde, lemonde.fr. Merci infiniment.
Merci à vous.
Et merci évidemment à Stéphanie Mongeon et Jean-François Di Meglio de nous avoir éclairé ce matin sur la Chine, championne de la transition et du charbon, dans cette série consacrée à la lutte pour le climat. On la poursuivra demain, mais tout de suite, c'est Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Cheryl Misak, philosophe canadienne qui enseigne l'histoire de la philosophie analytique à l'Université de Toronto, était bien placée pour synthétiser 4 essais récemment publiés et ayant pour thème le fameux Cercle de Vienne.
Oui, comme elle l'écrit, les années 20 du XXe siècle furent certes les Roaring Twenties, l'âge du jazz américain et des cabarets berlinois. Écoutez ce qu'en disait Stefan Zweig dans Le Monde d'hier. Partout, on proscrivait l'élément intelligible, la mélodie en musique, la ressemblance dans un portrait, la clarté dans la langue. Au demeurant, toute littérature qui n'était pas d'action, c'est-à-dire qui ne consistait pas en théorie politique, était vouée à la poubelle. Fin de citation. Mais le déchaînement de violence absurde qu'avait déclenché la Première Guerre mondiale a produit, dans les années qui l'ont suivi, 2 types d'attitudes opposées. Certains furent emportés par une vague d'irrationalisme frénétique, comme si, après avoir subi des épreuves aussi extrêmes, il leur était devenu impossible de renouer avec les illusions humanistes d'avant-guerre. Les lumières leur paraissaient dépassées, voire mensongères. Après un contact intime et quotidien avec la mort, ils aspiraient à une vie exaltée. Mais il ne faut pas oublier que vers la fin de la même décennie, les années 20, à côté des agitations avant-gardistes et dans une large mesure contre elles, d'autres s'attelèrent à mettre un terme à ce sabbat de sorcières. C'est peut-être parce qu'ils en pressentaient les retombées politiques, car le nazisme allait être lui aussi, et à sa façon diabolique, une réaction en acte envers le rationalisme et les Lumières, une politique de l'instinct, un nouvel accès de déchaînement pulsionnel. Alors bien sûr, on pense au Bauhaus, à l'austromarxisme, au constructivisme, autant d'aspirations à renouer avec la netteté dans les arts comme dans la pensée, à tenir à distance les fureurs équivoques. C'est ainsi que chaque jeudi à Vienne, un groupe de scientifiques, de logiciens et de philosophes se retrouvait pour un séminaire suivi d'une réunion au Café Central. Ils étaient résolus à ramener de la rigueur dans ce chaos, à dissiper les faux-semblants en cherchant la manière la plus nette de s'exprimer. Désireux d'unifier les sciences, ils voulaient en outre dégager les règles incontestables permettant d'accéder à la vérité dans tous les domaines. Contre le langage confus des idéologies qui cherchent à embrouiller, ils prônaient, eux, le respect des faits.
Et en 1929, Brice parut sous le titre « La conception scientifique du monde », le manifeste du Cercle de Vienne.
Publié sans nom d'auteur, il avait été rédigé par trois membres, Hans Hahn, Otto Neurath et Rudolf Carnap, les plus favorables au socialisme. Mais les buts des auteurs n'étaient pas politiques. Ils entendaient imposer à la spéculation philosophique des méthodes inspirées des sciences exactes. Pour eux, la philosophie devait apprendre à respecter les règles de la logique et à confronter toutes ses assertions à l'épreuve de l'expérience. Tout énoncé qui n'est pas susceptible d'être vérifié de manière empirique, disait-il, est dépourvu de signification. Les énigmes insolubles, celles de la métaphysique en particulier, devaient être congédiées comme autant de faux problèmes. Leur combat était un combat pour la clarté, pour les lumières. Dans leur collimateur, Heidegger, à ses profondeurs insondables, ils opposaient la maxime « en science, pas de profondeur, tout n'est que surface ». Ils étaient philosophes comme Moritz Schlick ou Rudolf Carnap, mathématiciens comme Kurt Gödel ou Hans Hahn, sociologues et économistes comme Otto Neurath. Leurs noms ont été longtemps oubliés. Par contre, certains de leurs épigones sont devenus des références. Hans Kelsen dans le domaine du droit, Karl Popper dans la philosophie des sciences et surtout Ludwig Wittgenstein, en qui beaucoup voient le philosophe le plus important du XXe siècle, ce sont tous des satellites qui évoluèrent autour du Cercle de Vienne. Moritz Schlick fut assassiné sur les marches de son université par un ancien étudiant en juin 1936. La presse d'extrême droite autrichienne se félicita de la disparition de cet intellectuel juif, même si Schlick lui-même n'était pas juif, mais une bonne partie, c'est vrai, des membres du Cercle de Vienne l'étaient. Le cercle se dispersa aussitôt. Lorsque Hitler envahit et annexa l'Autriche en 1938, les intellectuels de premier plan ayant tourné autour du Cercle de Vienne avaient déjà émigré. Wittgenstein avait accepté un poste à Cambridge, Popper en Nouvelle-Zélande, Neurath aux Pays-Bas. Mais la plupart, comme Carnap, Kelsen ou Gödel, avaient choisi les États-Unis. Pas étonnant que l'empirisme logique, dont ils étaient les théoriciens, soit devenu, après la guerre, l'un des courants dominants de la philosophie outre-Atlantique. Comme le disait ironiquement Walter Crook, administrateur de l'Université de New York, je le cite, « Hitler secoue l'arbre, moi je ramasse les fruits ». L'un des livres consacrés au Cercle de Vienne, celui de Carl Sigmund, pourrait être traduit en français par « Une pensée exacte dans un temps dément », comme l'écrit Cheryl Misak, nous aussi, en ce moment, nous vivons des temps déments. Peut-être est-ce la raison pour laquelle on relève ce soudain intérêt pour ces penseurs austères qui prenaient une forme de sobriété intellectuelle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France. On vous retrouve demain et dans un très court instant, c'est Olivier Gesbert et La Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.